voix nue. Cette semaine, Zoé Sfez rencontre Odile Deck. Ce soir, où sont les femmes en architecture ?
Bonsoir Odile Deck.
Bonsoir Zoé.
Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode d'A Voix Nue déjà. À voix nue, ici, toujours, dans votre studio, le studio Odile Deck. Nous sommes dans le Marais et nous abordons dans cette troisième partie, après avoir évoqué votre formation et puis cette accélération que connaît votre carrière avec Benoît Cornette dans les années 80, fin 80 et surtout 90, le Lion d'Or à la Biennale de Venise, la Banque Populaire de l'Ouest qui vraiment donne un coup d'envoi à votre carrière. Vous travaillez beaucoup dans ces années 90. Vous travaillez au sein de cette agence ODBC pour Odile Deck, Benoît Cornette. Vous travaillez bien, vous le dites, être une femme à vos débuts, ça a été compliqué. Et puis j'ai l'impression justement que dans ces années 80, 90, vous êtes portée par cet élan, par ces prix. Le travail arrive et la question d'être une femme se pose moins finalement.
Effectivement, je n'y pense même pas. À cette époque-là, je n'y pensais pas. Ça me paraît, je savais que ça ne serait pas forcément facile, que ça serait obligatoirement long, mais ça n'était pas une question qui me préoccupait à autre mesure, parce que je ne la ressentais pas et elle ne m'était pas renvoyée à cette époque-là. Quand je dis que je savais que ça serait long, c'est parce que au tout début de mon activité, j'ai regardé qui étaient les artistes, je me regardais les artistes dont on entendait parler, quand c'était des femmes, ou quelques architectes, il n'y en avait pas beaucoup, et elles avaient toujours des cheveux blancs, les femmes dont j'entendais parler. Et je me suis dit, ah, bon, d'accord. Ça veut dire que c'est uniquement quand on a des cheveux blancs qu'on veut bien parler de nous, les femmes.
Et alors vous, à l'époque, vous aviez les cheveux rouges, bleus, vous aviez
absolument, ils n'étaient pas blancs. Ouais. Et que quand on parlait, par contre, de jeunes artistes ou de jeunes architectes, ils étaient effectivement jeunes, ils avaient 35 ans. Piano et Rogers, quand ils gagnent le Centre Pompidou, ils ont 35 ans. Voilà, donc ce sont des gens jeunes qui peuvent construire, qui peuvent faire des choses. Alors qu'une femme, je me rendais compte qu'elles avaient toutes les cheveux blancs. Et parallèlement à ça, il y avait une autre chose qui m'intriguait et dont je discutais quelquefois avec d'autres personnes, c'était le fait que les gens très jeunes, quand ils partaient comme ça sur un élan avec beaucoup, beaucoup de créativité, beaucoup de trucs, en fait, il y a un moment où ça retombait. Et il y a un moment où finalement ils ralentissaient, où ils commençaient à se répéter, où ils faisaient des choses un peu plus faciles. En fait, peut-être que l'éblouissement ou l'installation de la carrière faisait qu'ils avaient moins besoin d'être, ils avaient moins la rage au ventre. Et je me disais toujours que, ben, puisque moi, on allait attendre que j'ai des cheveux blancs pour faire des choses, je pouvais garder la rage au ventre assez longtemps. Et je crois que je l'ai toujours, finalement.
Alors, comment est-ce que ça a été la révélation, finalement, de comprendre qu'être une femme, c'est plus compliqué ? Parce que, effectivement, vous aviez cette espèce de double différence. Vous étiez une femme, vous aviez, et vous détestez qu'on l'utilise ce mot, mais en même temps, c'est une réalité, vous aviez ce look, et en fait, c'était une espèce de totalité. Oui. Et surtout, cette façon d'être à la fois très entière, de refuser des projets qui n'auraient pas été à la hauteur de ce que vous aviez envie d'en faire. Et puis en 98, vous perdez votre associé, votre partenaire, Benoît Cornette, et dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez seule finalement.
Oui. Oui, je me suis retrouvée seule. Et pour moi, je continuais. Enfin, il n'y avait pas de raison puisque j'avais commencé seule et j'allais continuer. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la façon dont les autres me regardaient qui faisait qu'il y avait un frein qui m'arrivait. Il y avait un frein pour plusieurs raisons. Il y a des amis, même proches, qui m'ont demandé, un jour où je m'interrogeais, parce qu'évidemment, quand vous vous trouvez dans ce genre de situation, vous vous posez plein de questions. Comment je vais faire? Comment je vais fonctionner maintenant? Etc. Donc, il m'est arrivé de discuter avec certains de mes amis. Et je me souviens d'un qui un jour m'a dit, mais pourquoi tu n'irais pas travailler pour un architecte? Et je me suis dit, oh non, on m'a déjà dit ça il y a 20 ans, je ne vais pas à nouveau entendre ça. Quand même, je suis architecte, il ne faut pas exagérer. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas les amis qui allaient m'aider et qu'il fallait que je m'en sorte toute seule. Et j'ai eu la chance, un an et demi après, de faire ce concours international que j'ai trouvé dans le journal pour le musée d'art contemporain de la ville de Rome. Parce que je me suis dit, je n'avais pas beaucoup de travail à ce moment-là, en 2000. L'agence n'était pas très active. Faire un concours musée d'art contemporain, ça a toujours été un challenge intéressant pour moi, toujours quelque chose, un grand défi. Le faire à Rome, ça me paraissait totalement un défi supérieur, puisque je ne voyais pas très bien ce que l'art contemporain venait faire dans Rome, puisque je n'en voyais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas, et je fais le concours, et on le gagne. Et on le gagne, par des concours de circonstances, de hasard bienveillant, si je puis dire. Parce que c'était un concours en deux phases, une phase anonyme et une phase ouverte. Et à la fin de la phase anonyme, quand on m'a appelé pour me dire que j'étais retenue à la deuxième phase, ils m'ont dit que quand ils ont ouvert l'enveloppe du projet qu'ils avaient devant les yeux, ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit moi. Ou que ce soit quelqu'un qui était connu.
Et ils pensaient que c'était un très jeune architecte
inconnu. C'était un jeune architecte, exactement. Et ils sont tombés sur moi.
Et c'est drôle, donc, ça veut dire que, voilà. D'une certaine manière, vous donniez toujours l'impression, justement, de vous réinventer, ou en tout cas d'être sur des propositions
tout
très...
Tout à fait, oui. On était partis sur quelque chose encore de différent. Et j'ai fait ce concours qui a pris, entre le moment où j'ai gagné le concours et le moment où il a été livré, 10 ans. Et pendant 10 ans, je suis allée à Rome très très régulièrement. C'était une aventure formidable. Aller à Rome, c'est un tel privilège. La lumière quand vous arrivez le matin, même si vous n'êtes pas très bien réveillé après l'avion, ben, vous êtes heureux. Aller déjeuner, c'est formidable. Les gens sont extrêmement sympathiques. C'est extrêmement compliqué de travailler, surtout pour la ville.
Oui.
Parce que c'est une administration qui ne savait pas ce que c'était que de faire de la maîtrise d'ouvrage. C'est quand même l'Italie, c'est un peu le sud et c'est un peu compliqué. Je veux dire, les relations.
Et vous l'avez dit, c'est pas du tout courant, c'est pas l'Allemagne qui a dû se reconstruire, c'est plutôt l'inverse. C'est une ville qui doit composer avec 1000 strates d'histoire.
Avec la strate de l'histoire romaine. Et pas 1000 strates, parce que justement, ils font référence en permanence aux Romains et exclusivement aux Romains. On a trouvé, alors qu'on avait fait des sondages dans notre terrain, il n'y avait rien. On a trouvé, quand on a construit le parking en dessous, quand on a creusé, à un moment, on est tombé sur une vieille carrière de l'époque romaine, 12 mètres plus bas. Et à ce moment-là, on a eu les architectes des monuments historiques qui sont arrivés en grande cérémoniale, qui ont regardé ça et qui ont dit « il faut la garder parce qu'on voit la trace de l'outil, la façon dont les Romains creusaient la pierre ». J'ai fait « non, c'est une carrière, faut pas exagérer ». Eh ben non, il a fallu qu'on la garde, on a modifié notre plan de parking pour pouvoir garder un morceau de la carrière dedans. Et puis un peu plus loin, on a trouvé une fontaine du 18e, quand même pas rien, une très jolie fontaine. Ils ont dit « oui, mais c'est 18e, c'est pas grave, on peut l'enlever ».
La hiérarchie entre les deux.
C'est pour vous dire que l'époque romaine est vraiment très importante chez eux. Mais en même temps, c'est ça qui en même temps fait le charme de la ville de Rome quand on y va comme un touriste et qu'on va la visiter, parce qu'il y a ce mélange entre la vie réelle, la vie d'aujourd'hui, la ville des Romains avec les ruines. Donc c'est fabuleux, c'est un grand. Donc j'ai et à ce moment-là, je me suis dit que parce que j'avais entendu tellement de réflexions du fait que j'étais seule, que peut-être que j'allais pas m'en sortir, que peut-être ça va être compliqué pour moi, enfin, pauvre petite fille, voilà, après, quand même 20 ans déjà, j'avais passé mon diplôme, enfin, c'est pas grave, sauf deux architectes. Et ça, je leur ai toujours rendu hommage, je leur ai toujours dit que ce sont les deux seuls qui m'ont dit que j'allais m'en sortir. C'était Massimino Fuxas, l'italien, et Bernard Tschumi, le genevois qui vit à New York, entre New York et Paris. Tous les deux m'ont dit, Odile, on croit en toi et on pense que toi, t'y arriveras. Heureusement qu'il y en avait deux qui m'avaient donné un peu confiance, voilà.
Mais dans la réalité, vous le dites, c'est plus compliqué pour une femme seule, même si vous n'aviez pas envie de le penser et que d'ailleurs vous ne vous en étiez pas rendu compte. Vous dites que c'est en passant de couple, parce que finalement quand on est en couple, c'est-à-dire qu'on est deux à la tête, et ça c'est très courant, c'est très rare des femmes seules à la tête d'un studio, mais il y a beaucoup de femmes qui sont associées à un partenaire, on ne le sent pas forcément, et que d'un coup la question se pose quand on se redécouvre toute seule. Elles sont combien aujourd'hui les femmes? On connaît Zaha Hadid, qui a eu le prix Pritzker d'architecture. C'est la seule femme à l'avoir obtenu.
Oui, parce qu'après, il y a eu un couple.
Après, il y a eu un couple.
Oui.
Mais c'est la seule femme seule.
Tout à fait.
À l'avoir eu. Comment est-ce que vous le sentez? Vous le voyez encore aujourd'hui ou pas? Et pendant ces 10 années, vous avez été portée par le macro, d'autres projets, mais je crois que ça a été concrètement dans les faits plus dur.
C'était plus dur parce que c'est l'image qu'on vous renvoie. En fait, les gens doutent de vous, ils sont en face de vous, ils ne vous sélectionnent pas. Je me souviens d'avoir postulé 2 fois pour des concours avec des gens dans le jury que je connaissais, des architectes que j'ai pas appelés préalablement parce que je le fais pas, et que j'appelle après n'ayant pas été retenu, une fois à l'étranger, une fois en France, et où l'un et l'autre m'ont renvoyé cette idée de dire on avait déjà sélectionné une femme, on n'allait pas en prendre deux.
Donc c'est ça,
quand on vous renvoie votre genre,
alors le quota était déjà fait.
Alors que c'est pas une question de genre, c'est une question de dossier, de ce qu'il y a dans le dossier qui est important. Mais où qu'on vous dit que, c'est déjà bien pour toi parce que t'es en tant que femme, c'est déjà bien que t'en sois arrivée là. Vos confrères vous disent ça. Et quant aux clients, déjà avec mon apparence particulière et singulière, mes références qui étaient aussi particulières et singulières. Les gens avaient peur de moi. Ils me l'ont dit après. Enfin, je l'ai su beaucoup plus tard qu'ils avaient peur de moi. Parce qu'ils pensaient qu'une femme forte en face d'eux, alors qu'en fait, avant, c'était moi qui étais quand même l'interlocutrice, tout le temps.
Mais quand vous étiez avec Benoît Cornet.
Mais quand j'étais pas seule. Mais malgré tout, ça leur faisait moins peur. Femme seule en face d'eux, ils avaient peur.
Vous faites partie des gens qui ont signé en 2013 une pétition pour que l'américaine Denise Scott Brown reçoive le prix Pritzker. Que son époux, Robert Venturi, avait reçu en 91 et elle n'avait pas été associée à ce prix.
Absolument. ça ne sera jamais. J'ai compris maintenant que le Pritzker ne reviendra pas en arrière parce qu'un jury a voté un jour et qu'il ne reviendra pas derrière. Mais j'ai découvert que c'était le fait de beaucoup d'architectes d'avoir fait ça. Parce que vous savez, vous avez peut-être entendu parler d'un architecte chinois qui a le Pritzker, qui s'appelle Wang Shu. Et Wang Shu, dans son agence, il y a sa femme. Et sa femme, elle n'est pas dehors, elle est dedans. Mais elle travaille, elle fait tous les projets avec lui. Et Wang Shu n'a jamais revendiqué que sa femme, et sa femme dans le système chinois n'a pas revendiqué non plus, ils n'ont pas revendiqué de faire émerger la femme en même temps. Je connais tellement d'agences d'architecture dans lesquelles il y a un homme et il y a sa femme. Et que la femme, elle, son nom n'est pas forcément sur le nom de l'agence. La femme, elle manage l'agence, elle est là derrière, mais elle ne revendique pas. Alors peut-être que maintenant, après MeToo, après plein d'autres choses, les femmes vont commencer à dire les choses, à être plus. Mais pas forcément, parce que quand vous discutez avec elles, parfois elles disent « mais non, mais moi ça me va comme ça ». Donc c'est assez étrange, parce que moi je me souviens que la première fois qu'on m'a appelée pour me proposer d'avoir la médaille de chevalier des arts et lettres, j'ai dit « c'est pour deux ou pas du tout ».
C'est pour vous et Benoît Cornette, voilà, avec qui vous travaillez.
Et que ça ne serait pas pour moi toute seule.
Vous avez eu ce réflexe.
Parce que moi j'ai eu ce réflexe, et apparemment les garçons ne l'ont pas. Mais bon, je ne vais pas dire que c'est tous les garçons, mais on ne sait jamais.
Et par exemple, Robert Venturi, il avait remercié évidemment sa femme dans son discours, et il fait partie des gens qui ont signé cette pétition, et pourtant il a accepté ce prix.
Parce qu'à l'époque, on parlait peut-être moins de ce problème-là, et que la femme peut-être restait tranquillement, ne revendiquait pas trop. Et moi, je me suis rendu compte de ça petit à petit, lorsque je me rendais compte que je patinais. Une fois seule, j'avais l'impression que je patinais, malgré le travail du musée à Rome, je patinais. Et que pendant que je faisais le musée, je me suis dit, puisque les gens ne croient pas en moi, je ne vais rien dire pendant que je le fais, et je ne vais rien faire, je ne vais pas bouger. Et je le montrerai une fois qu'il sera fini. Et quand il y a eu le jour d'inauguration, j'ai emmené avec moi un groupe de journalistes de Paris, qui m'ont dit le soir en rentrant, tu sais, dans l'avion le matin, on se demandait si vraiment on allait voir quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'on me parle comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Je savais faire. C'était quelque chose que je savais faire. Et ils ne savaient pas à quoi ils allaient s'attendre. Et c'est pour ça qu'après, ils en ont parlé, peut-être en bien aussi, parce que finalement, ils ont été surpris. Mais au début, les gens n'y croyaient pas. Et c'est assez choquant quand vous recevez ça. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai commencé à entendre parler un certain nombre de femmes qui parlaient de ce qui se passait dans le monde, pas seulement dans le monde de l'architecture, etc., je me suis dit que la cause n'était pas gagnée. Alors que dans mon enfance, je voyais les femmes qui se battaient pour revendiquer un certain nombre de choses qu'elles obtenaient, et que je pensais que le monde s'ouvrait et se libérait pour les femmes, j'avais le sentiment depuis plusieurs années maintenant que le monde se refermait à nouveau, et qu'on voit dans le monde autour de nous, pas seulement en France, mais dans le monde entier, que le territoire des femmes et les droits des femmes et la liberté des femmes se restreint à nouveau. Et je trouve ça monstrueux. Et c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de prendre parti et d'en parler. D'autant plus quand je vois des réflexions qui me choquent. Et parce qu'un certain nombre de gens, dans des réunions, dans des réflexions comme ça, de conversation, font des réflexions qui sont assez choquantes à propos des femmes. Je me souviens d'une discussion en Italie un jour à Turin, dans un dîner. On parlait de Gaia Olanti, qui est quand même une femme, pas n'importe qui, c'était la femme d'Italie dans les années 50-60-70. Et on disait, oui, mais elle, c'est un homme, enfin, comment elle est, c'est un homme. Et je disais, mais excusez-moi, vous avez vu comment vous parlez d'une femme?
C'est-à-dire qu'en fait, on lui prêtait des qualités masculines, voilà, qui expliquaient
sa capacité de son parcours. Voilà. Exactement. Alors qu'en fait, je pensais qu'on n'était pas obligé de se transformer en homme pour pouvoir faire les choses. Et que je me rendais compte que parfois, un sourire vous permettait d'obtenir beaucoup plus de choses que si vous étiez en train de taper du poing sur la table comme un homme ou de se mettre à hurler. Même s'il faut parfois quand même hurler, qu'il faut apprendre aussi à être ferme et fort. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours surprise, la façon dont on nous parlait et dont on parlait de nous. Et donc petit à petit, des réflexions successives m'ont fait prendre conscience de tout ça. Et lorsque en 2016, j'ai été appelée par les Anglaises parce que on venait m'attribuer un prix pour les femmes architectes en Grande-Bretagne, qui est le Gender Prize, qui a été donné pour l'instant à moins de 10 femmes architectes dans le monde, en hommage à Jane Drew, cette femme qui s'était battue dans les années, plutôt dans le XXe siècle, et que j'ai compris le combat qu'elles menaient, ces femmes. Je me suis dit qu'il fallait continuer, qu'il fallait reprendre le flambeau, et qu'il fallait à nouveau parler. On n'était pas forcément pour autant des féministes acharnées, des féministes avec le soutien-gorge dans la rue, enfin sans soutien-gorge dans la rue, comme les gens disaient autrefois, mais des femmes qui revendiquaient leur capacité à faire, et que c'était important d'en parler pour les plus jeunes. Parce que moi j'y arrivais, parce que moi finalement j'avais ma ténacité, ma hargne, si je puis dire, j'ai réussi à accéder quelque part, et que c'était important de le faire pour les plus jeunes.
Vous le dites effectivement, les plus jeunes, les chiffres sont assez sidérants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont largement majoritaires, les filles.
Dans les
60% des étudiants en architecture, oui, sont des étudiantes, oui, mais elles ne sont que 30% à travailler dans les studios.
Pas à travailler. Être inscrite à l'ordre, inscrite dans les organisations professionnelles. Les autres travaillent sans être revendiqué le titre d'architecte. Et moins de 10% à la tête de leurs agences.
Mais alors, elles sont où, ces femmes? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce que vous avez une idée, vous, après avoir enseigné à l'ESA, en les regardant un peu, vous comprenez ce qui leur arrive?
Alors, parfois, elles se marient avec un architecte, comme je disais, puisqu'il y en a beaucoup dans les agences. Il y en a aussi beaucoup qui sont des femmes d'architectes. Il y en a eu beaucoup que j'ai vues dans le monde de la presse. Il y en a eu beaucoup qui sont partis aussi dans les municipalités à une époque, qui sont devenus plutôt du côté de la maîtrise d'ouvrage. Et puis, il y en a qui laissent tomber. Parce que c'est un métier extrêmement dur. Enfin, ça reste dur. Et à force de circuler dans le monde, je me rends compte que peut-être qu'en France, il est plus dur qu'ailleurs parce que nous sommes dans un pays qui est vieux et encore machiste. Et pour lequel la confrontation entre les hommes et les femmes est toujours aussi dure. Alors qu'en fait, il y a d'autres pays où il n'y a pas plus de progrès en nombre, mais au moins la confrontation dure comme on a aujourd'hui.
Vous parlez des pays anglo-saxons, par exemple ?
En particulier, les pays anglo-saxons, oui. Mais en même temps, les chiffres sont les mêmes. Mais il y a même des enquêtes aujourd'hui. J'avais vu, je me souviens, il y a 2 ans, parce que à cause de ce prix de Gendrou et du prix qu'ils donnent, que les Anglais font chaque année, ils publient des statistiques, ils font des enquêtes tous les ans qui sont publiées dans un journal, l'Architect Journal. Et dans l'Architect Journal, il y a 2 ans, il y avait une enquête sur auprès des femmes architectes. Pour leur demander si vous avez une fille, est-ce que vous lui recommanderiez de faire des études d'architecture? Et bien, plus de 70% répondaient non. Et pourquoi? À cause de la dureté, à cause de la façon dont elles sont traitées, à cause du harcèlement, à cause de la non-considération qu'on avait, et à cause du fait qu'elles, de toutes les façons, elles n'y arriveraient pas. Et c'est horrible de penser comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les écoles ont un rôle fondamental. Parce que c'est elles qui doivent apprendre aux femmes à avoir confiance en elles. Mais quand je dis confiance en elles, c'est pas seulement dans le monde de l'architecture, c'est partout. Et c'est dans toutes les écoles, et c'est l'enseignement, c'est l'éducation qui doit faire ça. Parce que les parents ne le font pas forcément, hélas. Certains le font. Tous ne font pas. Je dis souvent que un homme qui a une fille et un garçon, quand ils sont petits, admire le courage et la bravoure de son garçon et admire le sourire et le côté joli de sa petite fille. Et moi, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, tout est dit. Ça veut dire que quelque part, on ne va pas penser que sa petite fille pourrait être brave et courageuse et on ne va pas penser que son garçon pourrait être mignon. Et je dis ça plutôt du côté des hommes, mais en même temps, les femmes aussi un peu. Et je pense que c'est vraiment là que ça se situe au départ. Parce que je me souviens d'avoir été un jour dans une manifestation pour des notaires. Il y avait des jeunes femmes notaires qui sont venues me parler, qui m'ont dit « comment vous avez réussi ?» Et elles me disaient « mais dans notre métier, c'est pire que tout ». Donc elles me racontaient, dans tous les métiers, c'est pire que tout par rapport à ça. Et toutes, elles racontaient le manque de confiance, la façon dont elles sont reconnues, la façon dont elles sont traitées, la façon dont le plafond de verre existe. Je sais qu'il y a le plafond de verre chez les architectes parce que même si moi, je suis arrivée à un certain niveau, et où je connais pas quelques architectes, vraiment quelques architectes qui sont à ce niveau-là.
Femmes,
exactement. Je dis toujours, mais quelle est la femme architecte qui a fait un grand stade? Aucune. Quelle est la femme architecte qui a fait le parlement d'un pays? Aucune. Quelle est la femme architecte qui a fait les plus grands bâtiments? Aucune. Donc il y a toujours un plafond de verre à ce niveau-là. Et ce plafond de verre, il existe. Quand j'en ai parlé avec mon avocat, un jour je lui dis, mais alors chez vous, comment ça se passe? Il me dit, mais il y a un plafond de verre. Je dis, mais comment ça se fait? Parce que quand même, avocat, faut pas exagérer. Enfin, vous pourriez... Oui, mais non, parce que les femmes, elles rentrent dans le même niveau que nous dans les bureaux d'avocats. Puis à un moment, donc elles gagnent, elles progressent. Et puis à un moment, elles font des enfants. Donc quand elles partent, elles perdent la progression. Je dis, mais attendez, c'est pas possible de faire perdre la progression sous prétexte que vous partez faire des enfants. Ben si, il m'a dit inévitablement. Et c'est pour ça, comme ça, qu'après, à la tête des cabinets d'avocats, ben, il n'y a plus de femmes.
Vous dites d'ailleurs que l'une des seules, parce que évidemment on s'en plaint beaucoup, vous dites qu'il y a des choses à faire du côté de l'enseignement, il y a peut-être des gestes politiques à faire. Vous allez me dire si vous êtes par exemple favorable à l'idée justement d'instaurer des quotas, c'est-à-dire qu'il faille qu'il y ait toujours au moins un certain nombre de femmes et qu'on ne puisse pas dire ce qu'on vous a dit, il y a déjà une femme, deux ce serait peut-être un peu trop. Vous dites qu'Aurélie Filippetti, ministre de la Culture sous François Hollande, est l'une des seules peut-être qui s'est un peu intéressée à cette question.
Elle s'est intéressée au départ de sa présence au ministère, parce qu'elle avait invité un groupe de femmes. J'avais reçu une invitation, je suis allée à déjeuner, je me suis retrouvée avec, on était 7 femmes autour de la table. Je lui ai demandé pourquoi, elle a dit parce que j'ai pas entendu les femmes me parler, alors que quand je suis devenue ministre, il y a des hommes qui m'ont écrit et je voulais savoir ce que pensaient les femmes. Et ça, je trouvais ça formidable. Mais ce qu'il faut savoir, ce que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est que le président actuel a instauré dans chaque ministère, auprès de chaque ministre, de tous les ministères, il y a une femme quelqu'un en charge de l'égalité dans les ministères. Donc, qui regarde et qui analyse l'égalité dans, pour essayer de faire bouger les choses et propose des solutions pour améliorer dans toutes les institutions qui relèvent de ce ministère. Et donc, auprès de la ministère de la Culture, il s'avère que cette femme, je la connais. Donc, je lui ai écrit et je lui ai proposé d'aller la voir. Et je suis allée la voir une première fois pour prendre un café avec elle. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, je vais venir avec d'autres femmes. Et on est venu à cinq discuter avec elle parce qu'elle, elle connaissait les problèmes, elle voyait les problèmes qui se passaient dans les institutions, enfin, dans l'institution du ministère lui-même, puis dans les institutions des différents arts et différentes disciplines qu'elle avait. Mais elle n'avait pas la profession d'architecte. Donc, nous lui apportions les problèmes qui se posaient dans la profession d'architecte. Et à tel point que là, encore ce week-end, elle nous a écrit pour nous dire que maintenant, ça y est, ils ont fait un texte à partir de ce qu'on leur a dit, qui va être présenté au cabinet du ministre, et après ça, on ira le présenter au ministre. Donc, ça peut faire bouger les choses. Et ça, je trouve ça formidable. Donc, effectivement, par exemple, une des choses dont on a parlé, nous, c'est qu'on ne demande pas à être prise parce qu'on est une femme. On ne demande pas à être sélectionnée, à avoir des quotas dans la sélection des concurrents. Mais on demande que dans les jurys, il y ait plus de femmes. Je parlais avec Claudine Rey il n'y a pas longtemps, que j'ai fait venir dans mon école, et Claudine Rey me disait que c'est vrai qu'elle, qui fait partie du conseil d'administration, elle se rendait compte que quand elle était toute seule dans le conseil d'administration, elle n'avait pas voix au chapitre. Quand elles étaient deux, elles commençaient à pouvoir parler, mais une fois qu'elles sont 4, 5, 6, tout d'un coup, les femmes ont voix au chapitre. Eh bien, c'est pareil. Donc, je pense que dans les jurys, si on faisait des quotas en mettant des moitié femmes et moitié hommes, au minimum, dans des jurys d'architecture, peut-être que tout d'un coup, les femmes auraient voix au chapitre et auraient un point de vue différent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles choisiraient des femmes. C'est pas ça le sujet. C'est au moins qu'elles puissent avoir un point de vue et exister dans les jurys.
Vous disiez, Odile Deck, d'ailleurs, que lors de cette réunion avec Aurélie Filippetti, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est à un certain moment donné de votre carrière que vous avez eu envie de défendre ce combat. Il y a un moment, forcément, fatalement, où on n'a pas envie de se dire faut que j'ai un discours sur les femmes parce que moi-même, je suis une femme. Ça vous est venu assez tard. Vous m'avez dit que pendant cette fameuse réunion avec Aurélie Filippetti, il y avait une partie des femmes qui n'avaient pas envie de s'attaquer à ces questions.
Tout à fait. Et en fait, j'ai constaté en regardant autour de la table que toutes celles qui ne pensaient que le problème n'existait pas étaient toutes en couple. Et celles qui se posaient la question étaient toutes seules.
Et donc, à la tête d'un studio d'architecture.
Absolument. Et c'était ça, le sujet. Mais c'est pour ça aussi que, après MeToo, quand il y a eu la semaine de l'année dernière, j'ai été contactée par une jeune américaine qui voulait faire un événement au moment de la Biennale de Venise l'année dernière. J'ai répondu tout de suite et on s'est retrouvés à une douzaine de femmes architectes dans le monde à communiquer entre nous pour faire quelque chose au moment de la Biennale. Et on voulait faire au départ un panel de discussion dans les Giardini. Et puis j'ai vu passer au Festival de Cannes cette annonce sur les marches avec toutes les professions du cinéma mélangé qui ont lu un texte qui a fait beaucoup de bruit, mais je me suis dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, on a monté un stand-up dans les jardins de la Biennale, où on a réuni 200 femmes, quand même, pour le faire. Et ce qui était pas mal, je trouvais. Et ça a diffusé beaucoup d'informations. Ça a fait beaucoup de bruit dans la presse architecturale des pays anglo-saxons, pas beaucoup dans la presse française.
C'est vrai.
Et pourtant, ils étaient
dans
là.
La presse française.
Et pourtant, ils étaient là.
Odile Deck, vous l'avez dit, MeToo, qui est un mouvement très large, qui a commencé, qui concernait au départ le cinéma, et Harvey Weinstein, a eu un écho qui s'est élargi, y compris au monde de l'architecture. Est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose ?
Je dirais, je ne suis pas sûre que ce soit passé beaucoup au monde de l'architecture. Il y a eu un ou deux architectes très connus dont on a parlé, et dont un qui a arrêté sa carrière radicalement. Mais par contre, ça fait bouger les lignes chez les autres. Parce que récemment, quand il y a eu l'incendie de Notre-Dame, j'ai vu immédiatement des architectes parler hommes dans la presse. Et au bout de deux jours, j'ai commencé, moi, à recevoir des appels de la presse.
Deux jours après.
Il y en a eu un qui m'a appelé le jour même, et les autres m'ont appelé deux jours après ou trois jours après, en me disant particulièrement, vous savez, à la rédaction, on se posait la question, finalement, on n'a entendu que des hommes, et si on écoutait les femmes ? Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'elles se seraient posées ce genre de questions, parce que c'était femmes, il y a deux ans ou trois ans, je ne suis pas sûre. Et là, tout d'un coup, on se dit, mais si on écoutait les femmes ? Et je me dis, à cause de ça, ça fabrique quelque chose qui est en train de se passer. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas, mais au moins je suis sûre que ça fait bouger les lignes.
Vous l'avez dit, dans le monde de l'architecture, Odile Deck, il y a eu essentiellement ce happening duquel vous étiez, c'était à la Biennale de Venise en 2018, la Biennale d'architecture, puisque en 2019 ce sera l'art contemporain. Il y a eu cet événement-là, vous êtes engagé plus fort, on va dire, dans ce combat depuis déjà 3, 4, 5 ans. Est-ce que vous avez trouver cette fameuse sororité dont les anglo-saxons parlent beaucoup, c'est-à-dire cette solidarité entre femmes, est-ce que vous la sentez plus forte ou pas particulièrement ?
Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que je sais que c'est, en tout cas, on se sent solidaire, ça c'est sûr, du sujet, sur le sujet. Est-ce que jusqu'où ça ira ? Là encore, je ne sais pas. Je pense que les anglo-saxons ont une très grande longueur d'avance sur nous par rapport à ça. En France, je ne sais pas, parce que on est quand même dans un, comme je disais tout à l'heure, dans une vieille nation machiste où, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous posez le problème en face d'un architecte, il vous répond oh, non, mais maintenant c'est réglé cette question-là. Tout le monde vous dit mais vous savez, c'est réglé. Et on répond non, c'est pas réglé, et vous commencez à lui expliquer pourquoi c'est pas réglé. Et il dit oui, mais enfin quand même. La réponse est toujours oui, mais enfin quand même. Mais non, c'est pas réglé parce que la preuve, c'est que si c'était réglé, on ne se retrouverait pas à devoir demander d'avoir de la parité. On ne se retrouverait pas à devoir dénoncer des questions de harcèlement qu'on trouve à tous les niveaux, pas seulement dans l'architecture, mais dans la société. On ne se retrouverait pas à parler de la question de la égalité des salaires, chose qui existe aussi dans le monde de l'architecture. Et enfin, toutes ces questions-là, on ne les poserait plus si c'était réglé. Mais en fait, c'est toujours pas réglé. Et ce qui me désespère le plus de ça, c'est que moi, je me souviens quand je me suis inscrite à l'ordre en 1979, c'était quand même il y a longtemps, ben, ça fait maintenant 40 ans que je suis inscrite à l'ordre, on était 11% dans la profession. Et aujourd'hui, on est toujours en dessous de 30%, 40 ans plus tard. Donc la progression, elle est minime et très faible. Et alors, c'est vrai que dans la pyramide, il y a plus de plus jeunes que de plus âgés. On peut, donc, grâce à ça, on peut penser que ça va peut-être progresser. Mais c'est une telle lenteur que j'y crois qu'à moitié. Et que je me dis qu'il y en a qui disparaîtront en cours de route, il y en a qui quitteront la profession, parce que j'en connais plein qui ont quitté la profession parce que c'était trop dur. Et donc, je ne suis pas sûre que la question soit réglée. En tout cas, pour moi, elle ne l'est toujours pas. Et est-ce que c'est un combat? Je ne sais pas. C'est un fait qu'il faut mettre sur la table et qu'il va falloir régler. Dire que c'est un combat, ça voudrait dire devenir une militante de la cause. Et je me suis retrouvée, à cause de cette histoire de Venise, de ce stand-up à Venise, considérée un peu comme la suffragette. Tout le monde me disait, dans toutes les conférences maintenant où je vais, on me présente celle qui a monté. Mais non, j'étais pas la seule, on était une quinzaine à avoir monté ça. Mais c'était celle qui était le plus agitée, si je puis dire, pour la chose.
Vous,
la plus activée, mais non. La plus active pour la chose. Et donc, à cause de ça, on m'a donné cette étiquette. Enfin, on me colle une espèce d'étiquette. Et chaque fois qu'on m'appelle pour ça, je dis, écoutez, excusez-moi, je ne fais pas que ça dans la vie. Mais je veux bien en parler. J'en parle dans toutes mes conférences. Je dis toujours, je pose la question et je pose le problème. Et je dis toujours que je viens aussi pour les jeunes étudiantes qui sont en face de moi. Mais parce que c'est fondamental. Parce que dans toutes les cultures, dans tous les mondes, on se rend compte que c'est pas réglé et que ça régresse plus que ça n'avance.
Merci beaucoup, à demain Odile Deck.
Merci, bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Zoé Sfez avec Odile Deck. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Fabien Gosset, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.